Chez les Indiens du Mexique, il y a quelques jours, en fait au mois de février, on débute chaque année le calendrier, on commence l'année par un nouvel an qui ouvre cette fois l'année 4 lapins. C'est un peu en hommage à ces gens-là, un peu en hommage à ces Indiens que j'aimerais vous faire suivre les routes de l'Eldorado ces prochaines semaines. J'aimerais qu'aujourd'hui, où on prenne une route difficile, c'est vrai, on va pénétrer dans la jungle, on va suivre les chicleros, les chercheurs de gomme à mâcher, vous savez, ceux qui préparent, enfin, qui permettent d'obtenir cette pâte pour obtenir le chewing-gum, pour faire du chewing-gum. Nous allons suivre ces chercheurs de pâte à mâcher dans des jungles impossibles. Nous allons pénétrer le Petén, nous allons découvrir le Guatemala, mais surtout des ruines qui étaient encore méconnues il y a moins d'un siècle. Essayons de voir un peu comment est fait ce Guatemala, quel genre de pays nous allons découvrir, ou plus exactement, allons voir, prenons l'avion là, prenons l'avion, partons de Guatemala City, décollons vers le nord, et on va voir d'abord se transformer ce paysage, parce que c'est un des pays les plus tourmentés qui soit, dans sa partie centrale en tout cas. Alors on verra d'abord les chaînes de montagnes, ces chaînes qui sont flanquées de forêts de pins, on va retrouver des palmiers nains, ensuite on voit toujours à l'horizon quand on décolle ces cônes incroyables, ces cônes volcaniques, impressionnant, ces larges vallées qui sont quadrillées de petites huttes avec des fermes, enfin ce maïs, ces différents éléments qui marquent le territoire. Et puis ensuite, alors bizarrement, on arrive dans une immense plaine, toujours en allant vers le nord, qui se déroule vraiment à l'infini devant nous, et on pénètre dans cette épaisse jungle tropicale. Ça, c'est le Petén, c'est la province qui est à l'extrême nord du Guatemala, et elle est située dans une zone de forêt qu'on doit quand même appeler tempérée, c'est pas la pleine jungle, mais c'est la zone peut-être la plus intéressante d'Amérique centrale. Et imaginez simplement qu'il y pleut 2 mètres d'eau, enfin que tombe 2 mètres d'eau par année. C'est énorme, hein, ça vous situe déjà un peu le climat, et il y a naturellement une végétation absolument exubérante. On va retrouver 2 saisons, enfin on prétend qu'il y a 2 saisons, c'est-à-dire une sèche et puis une saison pluvieuse. En fait je crois qu'il y a la saison qui trempe un peu moins que l'autre, mais en fait il pleut tout le temps, il peut pleuvoir tout le temps. Mais c'est un temps qui est assez doux en hiver, qui est un peu plus chaud, humide un petit peu en été, c'est vrai, mais il est intéressant parce que s'il pleut, il va pleuvoir à des heures extrêmement régulières. Ce sont des chutes d'eau, des trombes incroyables, et puis le reste du temps tout se réveille, la nature reprend ses droits. Alors ce qu'on entend aussi, ce sont bien sûr les animaux, on en parlera tout à l'heure, mais essayons d'abord d'imaginer que nous survolons cette immense jungle. On voit tout à coup apparaître un lac énorme, c'est le lac de Flores, et là on va atterrir juste à côté, on prendra ensuite ce qu'on voudra pour faire encore une heure de route, toujours plus au nord, parce que j'aimerais vous amener dans cette forêt immense, c'est un parc archéologique même, mais c'est surtout un parc national, un parc où l'on protège la faune et la flore. Ça se trouve donc très au nord, dans la région de Tikal. Tikal, c'est une zone intéressante à plus d'un titre, parce que j'aimerais qu'on y vive comme on y vivait il y a 100 ou 150 ans. Que vous puissiez le découvrir au cours des siècles, qu'on reparte de la fin de l'histoire, de l'abandon des Mayas, ou plutôt de l'arrivée des Espagnols, et qu'on voit dans quel état on va retrouver un site archéologique qui est pourtant le plus incroyable de l'Amérique avec Machu Picchu. Alors, on pénètre dans ces arbres, des arbres qui montent à 30 ou 40 mètres de hauteur. Il y a toutes sortes d'arbres. Il y a l'acajou, il y a la caoba, il y a le cedro, comme on l'appelle. Ça n'a rien à voir avec un cèdre, en fin de compte. C'est aussi une variété d'acajou. Il y a la ceiba, un arbre incroyable avec des branches extrêmement claires, très lisses, mais qui est immense. Un parasol qui monte vraiment à 40 mètres de hauteur. C'est l'arbre sacré des Mayas. Ces Mayas qui pensaient que la ceiba pouvait même soutenir la voûte céleste, hein, c'était l'arbre sacré par excellence. Bon, il y a l'arbre à caoutchouc, il y a l'arbre dont on parlait tout à l'heure, celui qui produit cette pâte sortie du chico sapote, qu'allaient rechercher ces chicleros depuis le début du siècle. C'est eux qui vont faire les premières découvertes. Tout comme on est parti en Amazonie chercher du caoutchouc, chercher cette gomme du latex, eh bien eux partaient dans les forêts du Petén pour aller chercher cette pâte qui était à la mode aux États-Unis afin de créer le chewing-gum. Et c'est eux qui vont faire les premières vraies découvertes modernes des ruines, des centaines, puisqu'il y a même, si je prends le cas du Mexique, je crois qu'on a aujourd'hui répertorié 12 500 sites archéologiques. Ça vous donne un petit peu la proportion du travail qui nous attend. Alors, on va passer dans ces lianes, on va retrouver ces fleurs étranges, il y a des orchidées un peu partout, c'est très beau, disons, à observer, même en se taillant un chemin à la machette. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est un parc qui est un peu protégé, mais qui est aussi un peu aménagé, c'est-à-dire qu'on peut, en tant que touriste, le visiter sans trop de difficultés. Mais il y a partout des parasites comme ces orchidées qui poussent, c'est très beau à observer. Mais il y a une chose aussi assez étrange, on voit toujours des énormes racines qui débordent carrément en dessous de nos pas. Alors ça, je dis que c'est étrange parce que on pense que cette forêt a un sol épais, qu'il est très fertile, et bien pas du tout. Non, non, elle est au contraire, parce qu'il fait chaud, parce que c'est humide, il y a une action bactérienne qui est très forte, ce qui fait que l'humus, tout ce qui tombe, se décompose très rapidement. Donc il suffit d'un seul coup de pioche et on arrive déjà sur le calcaire, sur la base, disons, du sol, ce qui fait que les racines n'arrivent pas à pénétrer ce sol. Elles doivent chercher très loin leur support afin que lors des ouragans, elles ne soient pas, les arbres ne soient pas abattus. Quand on est à Tikal, là je viens de faire un silence, ce qui m'impressionne toujours, c'est la qualité du silence et en même temps la qualité du bruit. C'est surtout ce chant régulier des oiseaux qui revient de façon très étrange, parce qu'on sent bien qu'il y a des prédateurs dans cette jungle, donc tout à coup vous avez un silence de 2 minutes et puis ça reprend. Encore un silence d'une minute et puis ça reprend. Les oiseaux pullulent, on entend ces gros perroquets qui jacassent, il y en a des verts, il y en a des rougeâtres, on entend les toucans. Les toucans, bon, ils ont ce large bec un peu grotesque sur l'avant, ils passent toujours en couple comme ça. Et ils longent les parties les plus claires de la forêt, ils volent carrément au-dessus des arbres. On les voit très bien surtout lorsqu'aujourd'hui on s'installe au sommet d'une pyramide. Et puis il y a des pivers énormes qui sont en train de s'amuser sur chaque arbre et qui font un bruit aussi singulier que celui des singes. À Tikal, il y a des singes hurleurs, il y a des singes attelles. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une épidémie de fièvre jaune qui les a un peu décimés, mais enfin, le singe hurleur, c'est quelque chose d'inoubliable. 6 heures du matin, vous vous installez au sommet d'une pyramide et vous attendez. Et tout à coup, vous allez remarquer qu'un seul endroit commence à... Comment définir ce bruit étrange ? Ça ressemble à un jaguar, à un chien. Et c'est très 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 profond, c'est inimitable, je ne vais pas essayer d'ailleurs. Mais c'est vraiment un son guttural. Et puis tous les mâles se mettent à crier de la même manière. Et ça part du même endroit, parce que la colonie peut être de 2, 3, 4, 500 singes ensemble. Donc de grandes familles qui se mettent à se répondre ainsi d'un endroit à l'autre, mais sur une toute petite superficie. Ceci apporté par le vent du matin, avec un soleil qui se lève, avec la brume qui commence à se développer en dessus de la surface des arbres. Et puis au fond, à travers cette brume, 1, 2, 3 gratte-ciel, 3 pyramides incroyables qui ressurgissent à 40, 50, 60, 70 mètres du sol, donc bien au-dessus de la forêt. De temps à autre, on entend vraiment aussi le bruit des jaguars. Il y a des pumas, il y a... Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à Tikal ? Il y a des oslos. Ce qui m'a toujours impressionné, ce sont les troupeaux de cerfs, les tapirs. Il y a des pécaris aussi, en quantité incroyable. Il y a des tatous qui se suivent les uns derrière les autres. Il y a des agoutis, ça c'est beaucoup plus difficile à voir. Vous savez ce que c'est qu'un agouti ? Un agouti, c'est un gros cobé, vous savez, comme un espèce de gros lapins comme cela, très difficile à observer. C'est un cousin germain du cobé, qui est en fait le cochon d'Inde, hein, qui provient du Pérou. Mais là, ils sont beaucoup plus gros. Alors, ils filent toujours dès qu'on arrive, et on peut attendre des fois des années avant d'en apercevoir. Hein. Il y a des lézards de toutes les couleurs. Certains font même peur. Il y a des serpents, bien sûr. Pas trop, ça va, il ne faut pas avoir trop peur. Mais il y a même des tortues. Enfin, c'est un endroit qui est quand même assez riche en faune. De temps en temps, on voit... un crocodile, mais attention, il n'y en a qu'un en fait, là je plaisante, c'est le vrai crocodile américain. Il y en a un juste à côté de votre hôtel, parce qu'il n'y a qu'une ou deux posadas dans le coin, c'est vraiment un endroit perdu, bien sûr, au point de vue touristique, c'est très développé, parce qu'on y vient par avion, on peut repartir le même jour, et il y a donc peu de gens qui y dorment, mais il faut dormir à Tikal, il faut y aller la nuit, il faut pénétrer sur le site la nuit, il faut repartir le matin à 4 heures en pleine nuit pour aller voir l'éveil de la forêt, et ce crocodile dont je parle, ben, il est sur une espèce de grande mare qui a servi longtemps aux archéologues pour faire du ciment. Enfin, pour préparer le mortier afin de restaurer le site. Qu'on travaille, je vous le signale quand même, que depuis 1960, l'archéologie que j'étudie, celle des Amériques, est une archéologie extrêmement jeune. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. Bien, mon brave crocodile, lui, se met toujours au bord, là, tout près de chez nous, tout près de notre chambre éventuelle ou de notre bungalow, et il attend qu'un poulet ou une petite bestiole des Indiens descende boire l'eau à l'étang, à la mare, et hop, il l'attrape. Enfin, ça, c'est son petit jeu régulier.
Bon, on n'en parle pas trop du crocodile parce que ça fait peur à tout le monde. Il est en liberté, faut pas l'oublier. Mais enfin, tout y cale et comme cela. C'est un peu dans cette ambiance que j'aimerais vous emmener aujourd'hui. J'aimerais vous emmener dans le temps, bien sûr. J'aimerais vous emmener peut-être avec les premières personnes qui ont trouvé, qui ont découvert la première vraie ruine maya, celle de Tikal. Première question qu'on se pose lorsqu'on pénètre dans cette jungle, c'est de savoir comment, parce qu'aujourd'hui on le sait, n'est-ce pas, comment il a été possible que cette zone-là soit habitée un jour, et était habitée. Et c'est vrai qu'elle l'a été parce qu'au temps des Mayas, il y avait une forte population. Ce sont les maladies qui ont été apportées surtout par les Européens, là je pense à la malaria, à la fièvre jaune. C'est ça qui va en fait créer, qui sera la cause du dépeuplement, enfin cet énorme dépeuplement qu'on voit surgir surtout au même au XVIIIe siècle. Donc bien après la conquête. Ces premiers groupes qui vont pénétrer dans la jungle à l'époque moderne, je l'ai déjà dit, ce sont les chicleros, ces chasseurs de chicle. Alors eux, en taillant avec des machettes les arbres du chico sapote, ils arrivent à extraire cette résine, puis ensuite ils doivent la chauffer, ils font une espèce de feu de camp, comme ça ils la chauffent, ils en font une pâte extrêmement gommeuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils arrivent à faire des briques assez lourdes, un peu comme on fait pour le caoutchouc, de grandes briques blanches, de cette crème qui petit à petit durcit au feu. Et ils repartent très chargés. Et c'est eux qui vont découvrir pratiquement toutes les grandes ruines mayas de notre siècle. Là, je ne parle pas de Tikal, parce que Tikal, c'est un sujet à part, et on va voir que c'est une chose beaucoup plus intrigante. Mais j'ai dit aussi qu'il y avait eu assez de ruines. Enfin, à mon avis, il y a encore assez de ruines, ou peut-être on n'a pas tout découvert, pour occuper plusieurs générations, je dirais même peut-être plusieurs siècles d'archéologues, peut-être même tous les archéologues du monde ensemble, pourquoi pas. Et si Tikal est devenu le vrai pôle d'attraction aujourd'hui, c'est simplement parce que c'est la plus importante des vieilles cités mayas de toute cette zone de jungle. Mais il y a Copan qui est au sud-ouest, carrément tout en bas, là, du côté du Honduras. Il y a Uxmal, il y a Chichen Itza, voilà des mots qui reviendront au cours de ces prochaines semaines. Uxmal et Chichen Itza, ça se trouve sur l'énorme péninsule du Yucatan qui déborde, qui crée une sorte de queue, une pointe finale au Mexique vers le bas. Bon, et à part cela, tous les autres sites, très peu de personnes les connaissent. Mais quand vous parcourez à pied la zone autour de Tikal, vous vous apercevez que partout il y a des trouées à travers la forêt et qu'on voit des espèces de buttes comme des collines un peu abruptes.
qui jaillissent comme ça de la plaine, parce qu'au fond c'est une plaine, cette jungle, ben, ça monte souvent à plusieurs dizaines de mètres. Ben, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce qu'on voit là qui est recouvert de broussailles, en fait, ce sont des monticules qui ne sont pas naturels. Je veux dire par là que ce sont des choses qui ont été érigées par la main de l'homme. Et si on observe un peu plus près, ben, on remarque qu'à travers les racines, il y a des milliers de blocs qui ont été taillés. De temps à autre, on voit même un mur ou une base de construction qui apparaît. Ben, c'est important de le savoir. Je veux dire par là qu'on connaît très bien les fouilles qui ont été entreprises afin qu'on puisse imaginer Tikal comme c'était il y a 1500 ans. On sait maintenant même que Tikal a existé il y a 2000 ans, peut-être même 2500 ans. L'Amérique vieillit chaque jour, je dirais presque d'un siècle. On avait toujours l'impression que tout avait débuté après Jésus-Christ. C'est pas vrai du tout. On remonte très très loin maintenant dans le temps. Et ce centre-ville qui est maintenant nettoyé, bon, il est ceinturé, c'est vrai, des constructions les plus importantes, les plus incroyables de tout Tikal. Mais ça représente une superficie qui est assez petite, parce que il est bon que vous sachiez maintenant que un site comme celui-ci est en fait étalé sur plus de 30 kilomètres carrés. C'est vraiment une chose immense. On n'ose même pas avancer de chiffres pour savoir combien de personnes ont pu utiliser cet endroit comme centre cérémoniel, puisque ça n'a même pas la notion de ville. Les gens vivaient aux alentours, plus loin que ces 30 km carrés. Donc ça représente des surfaces absolument incroyables sur le plan, non pas urbain au sens propre, mais sur le plan vital. C'est-à-dire que la zone habitée, la zone vitale, l'agriculture en plus, représente souvent des centaines de kilomètres carrés autour d'un centre de commandement. J'ai un peu insisté là-dessus parce que c'est quand même très important de savoir qu'il y avait à partir de ce centre qu'on visite aujourd'hui, des routes, on en voit déjà dans le centre, mais il y a des routes pavées beaucoup plus impressionnantes, il y a ce qu'on appelle des sacbés ou des sacbéhobes au pluriel, qui sont des chaussées qui pouvaient relier les différents centres, ou même d'une ville à l'autre, on en a retrouvé certaines. Il y a des autoroutes chez les Mayas, qu'on a découvert il y a très peu de temps, qui font 100 km en ligne droite, avec 8 ou 9 mètres de largeur, entièrement travaillé avec des rouleaux compresseurs qui pèsent jusqu'à 5 tonnes, poussés simplement par un homme et un autre homme. C'est-à-dire sans animaux de trait, sans machines, sans rien. Ce sont des blocs de pierre qui pèsent 5, 6, 7, 10 tonnes qui permettaient de créer des rouleaux compresseurs afin de créer ces routes incroyables qui montent souvent à 7 ou 8 ou 9 mètres en dessus des éléments, en dessus de la terre vierge. Ça, c'est simplement pour vous montrer la puissance de construction de ces gens-là. Même si on a l'impression que tout est vide aujourd'hui, parce qu'on oublie qu'il y avait des milliers de cabanes en bois avec un peu de chaume sur le toit, qui correspondait à ce petit peuple qui a aujourd'hui disparu. C'est vrai qu'on peut voir des vestiges assez incroyables, je pense, non seulement à ces lieux de culte, il y a tous les palais, il y a des observatoires astronomiques, on va retrouver des terrains de jeu. Attention, pas n'importe quel jeu, le jeu de balle précolombien, on en parlera peut-être une fois à l'occasion. Il y a des plateaux qui devaient servir à la danse, on a même retrouvé des bains de vapeur, tous les Mayas passaient régulièrement aux bains de vapeur. Il y a des gradins qui servait certainement au public. Enfin, on remarque qu'il y avait des sortes de stades comme cela, et puis tout cela ponctué avec des pyramides incroyables. En tout cas, je prends simplement Tikal une dernière fois. Il devait y avoir au moins 200 édifices publics importants, et aujourd'hui on sait qu'il y en avait en tout cas, pour les plus petits, plus de 3000. Ça, ce sont des chiffres qui sont quand même impressionnants, quand je vous dis que tout cela était ignoré jusqu'en 1960. Et maintenant, qu'on a vu un petit peu comment tout cela a été fait, ben je vous indique quand même un peu ce qu'est une construction ou ce que les précolombiens avaient l'habitude de disséminer sur le terrain. Il y avait ces temples, ça c'est ce qui frappe le plus, avec des toutes petites constructions qui sont évidées et qui sont perchées vraiment au sommet de pyramides. Tout le monde a cette image en tête. Ces escaliers extrêmement raides qui dominent la jungle et qui donnent un peu l'impression d'un immeuble moderne d'ailleurs. Je veux dire par là que ça grimpe d'un seul coup sur 15 ou 20 étages de chez nous. Donc ce sont des ponctuations déjà très modernes. À Tikal, au Mirador tout près, on avait jusqu'au début de notre siècle les édifices les plus importants de toute l'Amérique. Ils montaient à 85 mètres de hauteur. C'est quand même impressionnant quand on a attendu le 19e pour faire la tour Eiffel à 300 mètres. Et bien de savoir qu'au 8e siècle de notre ère, on avait déjà des immeubles de 80 mètres de hauteur, c'est impressionnant. Maintenant que j'ai voulu grimper ces escaliers, on parvient, c'est vrai, à ce temple, c'est pas facile à monter, on a souvent plus d'une centaine de marches, c'est facile à compter, on arrive avec le souffle un peu coupé, et à l'intérieur du temple, on découvre, et ça c'est la surprise de tout occidental qui y pénètre, c'est la petitesse des pièces. Des pièces vraiment minuscules. L'intérieur d'un temple au sommet d'une pyramide de 80 mètres de haut, là, hors toute, bien sûr, ben, le temple, il fait souvent 80 centimètres de profondeur. Ça, c'est impressionnant. parce que ça représente une petite cage, un coffre-fort simplement exaucé carrément au sommet d'une construction. Donc c'est pas la grandeur, on a exaucé, pour être plus précis, et je dirais même scientifiquement parlant, on sait que le Maya n'a fait que prendre une petite hutte qu'il utilisait chaque jour, et l'a montée à 40 ou 50 mètres de hauteur pour la rendre noble, pour la rendre divine, c'est tout, c'est la seule idée qu'il a mis en avant. Bon, maintenant, on quitte peut-être ces grandes pyramides. Il y a aussi des temples qui, eux, sont faits de plusieurs de ces petites pièces ajoutées les unes aux autres, ce qui donne quand même un espace disponible plus important. Et c'était toujours des bâtisses évidées sur lesquelles on pouvait en mettre d'autres. Il y a une sorte de... Il y a un jeu, là, je ne fais pas publicité, mais il y a un côté Lego, comme ça, dans la construction précolombienne, qui est assez typique. Et toutes ces bâtisses étaient souvent décorées par une crête, ce qu'on appelle une crête, une décoration de toit. L'autre chose qui est importante, j'en parle quand même parce que tous les premiers explorateurs sont tombés sur ces choses-là avec une grande surprise, c'est ce que dans notre langage on appelle des stèles. Les stèles, ce sont en fait des rangées de plaques, enfin une plaque de pierre. Vous prenez une plaque de pierre, vous la gravez, vous la travaillez. Certaines étaient donc dressées comme cela et elles ont été marquées par des dates, elles étaient gravées, elles étaient dessinées afin de borner, si je peux dire, le temps de ces précolombiennes, nous le savons aujourd'hui. Puis il y avait un autre élément qui se trouvait devant, en principe, qui ressemblait un peu à un tambour. Hein. Imaginez un grand tambour, c'est ce qu'on appelle les autels, bien sûr avec un AU, des autels qui servaient non seulement aux offrandes, c'était des choses très décorées aussi, il y avait souvent des sculptures avec une victime étendue dessus, attachée, etc. Là, ça nous rappelle des sacrifices humains, éventuellement. En tout cas, ces pierres cylindriques, on sait qu'elles servaient vraiment à... Elles étaient là pour recevoir quelque chose, hein. Que ce soit une victime ou que ce soit simplement des fruits ou des offrandes devant ces stèles qui, elles, portent, en principe, sont gravées du portrait de grands personnages. Voilà, c'est un peu comme cela qu'il faut s'introduire à cette image, à cette première image que l'on découvre maintenant à travers les lianes dans cette jungle. Ce sont ces premiers objets, ces premiers bâtiments qu'on va découvrir tout d'abord en 1695. C'est la première vraie découverte maya de Tikal. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. C'est seulement en 1695 qu'on va découvrir, qu'on va redécouvrir, parce qu'après tout, ce sont les Espagnols qui avaient découvert les précolombiens, et surtout cette civilisation maya. Et ceci, ça va être le travail d'un prêtre, un travail tout à fait involontaire, c'est un certain Andrés Avendaño. Bah, il était parti avec deux moines franciscains du côté de Mérida. Je sais pas... Bah, tiens, à propos, si vous avez besoin de bibliographie ou éventuellement si vous avez besoin d'une carte de géographie un peu plus précise pour les prochaines émissions qui viennent, bah, vous n'avez qu'à me téléphoner à Radio Lac, je vous les offre volontiers parce que c'est vrai qu'on va pénétrer un peu dans des sujets un peu plus détaillés que le tour du monde qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et pour savoir où se trouve Mérida, bah, il suffit de voir cette énorme péninsule du Yucatan et de descendre petit à petit à partir de là sur les côtes du Quintana Roo. On va partir de Chichen Itza tout d'abord, on va voir ce site qui était déjà connu depuis le XVIe siècle, qui ne s'est jamais perdu. On va suivre ensuite un peu la fin de la route de Cortés qui lui était parti depuis Mexico à pied, imaginez-vous, jusqu'au Honduras, en traversant pratiquement toute l'Amérique centrale. Et on va, petit à petit, arriver dans cette jungle du Petén, où s'étaient réfugiés les derniers Itzas, ces Indiens mayas qui avaient fui devant l'envahisseur. Et nos personnages, ils arrivent maintenant près du lac Flores, qu'on a survolé tout à l'heure en avion, et ils vont tenter simplement de supprimer... Enfin, ils sont venus là pour arrêter cette religion un peu sanglante des précolombiens, ils sont venus là pour les convertir, tout simplement. Alors, comme ils avaient appris que les Itzas avaient tout simplement projeté de les sacrifier, de les attraper, de les tuer, bah, Avendaño et sa petite équipe, ils vont partir sur le lac. Alors, voyons la scène, hein, ils voient le petit site archéologique de Taïssal qui est juste en face. Aujourd'hui, c'est un site, mais enfin, à l'époque, c'était une ville bien vivante. Ils voient des pirogues qui arrivent, on essaye de les attraper. Eux-mêmes montent sur une pirogue, traversent le lac Flores, essayent de s'enfuir à travers cette jungle, avec ou sans sabre, avec ou sans machette, comme on dit
aujourd'hui. Et ils avancent, ils fuient devant l'Indien. Et tout à coup, vraiment, par miracle, pratiquement en mourant de faim après plusieurs jours, ils tombent pour la première fois devant Tikal. Parce que c'est vraiment par hasard qu'ils vont découvrir ces ruines de Tikal. Tikal qui a été abandonné depuis les années 900 de notre ère. Et là, nous sommes en 1695. Personne n'avait remis les pieds dans ce site qui était aujourd'hui envahi par la jungle. Et ils arrivent devant cette énorme pyramide, devant cette première stèle, devant ce premier hôtel. Alors, ils sont complètement troublés de voir qu'il existe des ruines en Amérique, en cette fin du XVIIe siècle. Et c'est une énigme qui continue. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi tous ces Mayas ont abandonné leur cité. Et ces Espagnols, ils vont ensuite retrouver, bien sûr, d'autres Espagnols. Ils vont faire un rapport, et ce rapport sera classé. Malheureusement, sera perdu parce que Tikal va de nouveau tomber dans l'oubli pour un siècle et demi. Simplement, nous avons retrouvé ce rapport d'Avendaño. Nous savons qu'en 1695, ils ont vu des ruines importantes et quelque chose d'important. Mais tout cela va être oublié simplement parce que on a classé la chose. Et c'est seulement... Alors là, on pénètre dans l'histoire d'aujourd'hui, au XVIIIe siècle, que l'opinion publique va changer. Pourquoi est-ce qu'elle va changer en Europe? Pourquoi est-ce qu'elle va changer aux États-Unis? Tout simplement parce que on était pratiquement persuadés, déjà depuis l'époque de Cortés, depuis les Monteros, qui sont les envahisseurs du Yucatan, que tous ces Indiens étaient des barbares. Même au Vatican, on disait que ces gens n'avaient pas d'âme. Au XVIIIe siècle, on était encore plus persuadés qu'avant Cortés, avant les conquérants, on n'avait affaire qu'à des barbares. Et il y avait même un historien écossais qui affirmait que les Mexicains ne pouvaient absolument pas s'aligner en tant que nation ancienne sur l'Europe ou sur le reste du monde. On ne pouvait en tout cas pas les nommer civilisés. Ça, c'est très important. Ça nous situe un peu ce début de l'histoire au XVIIIe siècle. Et ce qui semble être incroyable, c'est que pour lui, il était exclu que dans un laps de temps aussi court, ils ont été capables de construire et en même temps d'abandonner quelque chose. Alors ça devient important quand on tombe devant les premières ruines, parce qu'ils estimaient que l'histoire précolombienne, l'histoire américaine, avait été trop courte avant l'arrivée des Espagnols, et que les cités, les palais, les temples, bah tout ça c'était du domaine du déraisonnable, ça n'avait jamais existé. Et c'est ce qu'on disait en Europe. Et ce Robertson, puisque c'est lui qui a écrit cela, je crois que il va le faire exactement au moment où on découvre cette civilisation maya. Et c'est intéressant de voir que c'est en 1773, au même moment où Robertson écrit cela, que des Indiens parlent à un prêtre des ruines de Palenque. Palenque, c'est un site archéologique connu de manière universelle. Aujourd'hui, tout le monde connaît Palenque. Tout le monde a vu une fois dans sa vie, je suis sûr que vous avez une fois aperçu une photo de la fabuleuse pyramide des inscriptions de Palenque, qui se trouve dans les Chiapas du côté mexicain. Alors ce prêtre a établi un compte rendu qui va provoquer en fait plusieurs expéditions après cette première découverte. En fait, c'est la deuxième, puisque nous étions à Tikal tout à l'heure et que nous sommes à Palenque maintenant. Et c'est un explorateur, c'est un capitaine qui s'appelle Antonio del Rio, qui va visiter le site de Palenque, qui est complètement démoli. Mais lui, il va le démolir encore plus. C'est terrible, c'est-à-dire qu'il va agir comme un véritable sauvage. N'oubliez pas qu'on n'est pas encore scientifique, on ne sait pas ce que c'est que l'archéologie. Et il va, tous les murs qui l'embêtent, il les supprime, afin de composer, je dirais presque un paysage idyllique, et pouvoir écrire vraiment quelque chose sur les ruines qu'il a envie de voir, comme il a envie de les voir. Donc il va mettre le feu à la forêt, enfin il va faire des dégâts absolument incroyables. On est même étonné aujourd'hui de savoir le nombre de choses qui ont été détruites sur ce site par rapport au miracle de ce qui est conservé. Et c'est quelqu'un qui va illustrer ce livre, qui devient important. Je vous le cite parce que vous allez voir qu'il y a des personnages absolument farfelus dans cette époque ou à cette époque romantique. Je pense à Waldeck, bien sûr. Waldeck qui se fait appeler comte, Jean-Frédéric Comte de Waldeck. Et il va écrire, en somme, à partir de l'ouvrage de Del Rio, il va faire une sorte de traduction et il va publier cela de manière beaucoup plus universelle. Et ce livre va attirer l'attention de quelqu'un qui est encore plus important, qui lui a vraiment un titre de noblesse et qui s'appelle Kingsborough. Kingsborough, il est en fait vicomte. C'est encore quelqu'un de plus farfelu que le précédent. Il est absolument convaincu, lui, que les Indiens d'Amérique appartiennent en fait aux dix
tribu perdue d'Israël. Ça, il en est absolument sûr, il tient à le prouver, il veut appuyer cette thèse, et c'est pour cela qu'il va chercher Waldeck, dont je parlais tout à l'heure, hein, celui qui a été en fait le publicateur de l'histoire de Palenque. Il va lui donner un poste d'ingénieur des mines en Amérique centrale, et il va le charger de reproduire toutes ces antiquités américaines, et surtout de rechercher la trace de ces 10 tribus perdues d'Israël. Alors, bon, il faut comprendre qu'il a absolument aucune disposition d'archéologue. Il va essayer de... Allez, je vous mets un peu dans l'ambiance, là. Il va essayer de dessiner tout cela. Bon, ces ruines, il va les déformer. Il va les dessiner comme il suppose qu'elles étaient. Donc, il va changer la réalité. Alors, par exemple, il fait systématiquement figurer, ça situe un peu le personnage, vous allez voir qu'il a une vie assez extraordinaire. Il met sa métisse, là, sa petite métisse absolument nue devant lui, sur la droite, là, juste du côté des ruines, et il commence à dessiner. Et il rajoute des détails qui n'ont jamais existé. Et c'est à cause de ce Waldeck que, petit à petit, on va voir apparaître un peu partout des éléphants. Lui dessine chaque fois qu'il voit ces fameux tchaks, ce dieu de la pluie avec une forme de trompe arrondie, comme ça, sur certains sites, eh ben lui, il transforme ça en éléphant chimérique. Alors c'est le départ de théories absolument incroyables qui vont nous faire croire qu'il y avait des éléphants mayas et que naturellement, il fallait chercher pour ces Indiens d'Amérique des origines en Chine ou en Inde. Enfin, vous allez voir que c'est un déboulement romantique absolument incroyable. L'Amérique va être le foisonnement de toutes sortes de théories. Et il y a un livre, par exemple, qui a été écrit par un certain John Rankin. Je vous avoue que j'ai relevé le titre du livre, parce que c'est un titre incroyable. Ça s'appelle « Recherche historique sur la conquête au XIIIe siècle du Pérou, de Mexico, de Bogota, des Natchez et de Tallomeco par des Mongols suivis d'éléphants ». Il faut le faire. Ça ne s'invente pas un titre pareil. Hein. Et c'est vrai que ça m'a encore renforcé ce mythe des éléphants qui vivaient autrefois en Amérique centrale. Bah, c'est vrai. On a retrouvé, près de Mexico, un peu partout, aux États-Unis, on a retrouvé des mammouths, on a retrouvé des fossiles, et ces fossiles de mastodontes, par exemple, bah, ils abondaient un peu partout en Amérique. Et vivaient encore quand les premiers hommes sont arrivés dans le Nouveau Monde. On a chassé le mammouth et le mastodonte, comme on l'a fait en Europe pendant l'époque glaciaire, c'est-à-dire il y a 10 ou 20 000 ans, grosso modo. Mais tout s'est arrêté, en fait, en 8 000 ans avant notre ère. Après cela, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de cheval en Amérique. Enfin, il y a des disparitions qui vont être assez tragiques pour le développement d'une civilisation. Alors, ces animaux avaient disparu depuis bien longtemps, ça vous le comprenez, au moment où vont être construites ces premières choses, enfin, ces premières édifications mayas. Et Rankin, lui, prétend qu'au contraire, tous les restes qu'on a retrouvés, bah, c'était des restes d'éléphants qui avaient été apprivoisés, d'espèces modernes, qui avaient été apprivoisées par ces mêmes Mayas. Alors, bien sûr que ça, c'est déjà une source fantastique pour commencer à croire aux éléphants, mais je vous ai dit que le titre d'aujourd'hui, c'était les éléphants à plumes. Bon, on va rechercher les plumes maintenant. Et c'est incroyable, il a suffi d'un seul monument. Un monument qui se trouve à Copan. Copan, essayez de prendre encore une fois la carte. Ça se trouve au Honduras. Donc vous étiez au Guatemala, nous sommes allés ensuite au Mexique, on a même été à la pointe du Yucatan. On redescend un petit peu, là il y a le Belize, l'ancien Honduras britannique. On va se balader maintenant à Copan, qui est le plus grand site archéologique maya qui se trouve dans cette zone. Et vous allez voir, il y a effectivement quelques éléphants à plumes intéressants à découvrir.
Saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te vi. Saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. día en que cruzaste por mi camino. Tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije son mi destino. Y esos brazos morenos son mi hogar. Esos ojos me dije son mi destino, y esos brazos morenos son mi hogar.
Ce monument de Copane qui va attirer l'attention de tous ceux qui croisent l'éléphant à plumes, et moi le premier. Enfin, je n'ai pas vécu au 19e, mais je suis sûr que j'aurais marché dans la théorie parce que c'est une stèle. On a parlé tout à l'heure des stèles. Je vous ai dit que c'était ces espèces de plaques gravées. À Copane, ce sont presque des sculptures en haut relief. Les stèles de Copane, c'est quelque chose de foisonnant, de baroque. Vous pouvez rêver à la pire des églises baroques. Jamais vous n'arriverez au baroque d'un Maya de Copane. Et cette stèle, elle porte un nom aujourd'hui. On l'a appelée stèle B. Bon, elle porte en fait un personnage sur sa surface. C'est un grand dignitaire de Copane. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des souverains, nous connaissons leur nom, et ce dignitaire qui se trouve là-dessus a été gravé très en profondeur avec une coiffe aussi incroyable que ces coiffes d'apaches de notre enfance, avec des plumes un peu partout. Et c'est vrai que tout au sommet de cette coiffe, il y a de chaque côté deux choses assez curieuses qui représenteraient une énorme trompe d'éléphant, ça on le voit très très bien, avec des petits ronds dessus. Et sur cette trompe d'éléphant, il y a sur ces deux trompes, parce qu'il y en a une de chaque côté, il y a deux petits personnages. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir des cornacs qui sont montés sur un éléphant. Ça c'est vrai, c'est la première image qui saute aux yeux quand on n'est pas habitué à ce baroque, quand on n'est pas habitué à ce foisonnement. Mais quand aujourd'hui on se place devant la stèle numéro B, enfin la stèle B, c'est pas un numéro, c'est une lettre, je suis d'accord. Et quand on essaye de décrypter l'éléphant, tout à coup on voit que les narines de l'éléphant ne sont pas au bout de la trompe, comme ce serait normal si c'était des éléphants, mais tout à fait en haut. Alors on commence à réfléchir, et puis tout à coup on voit effectivement les plumes. On voit les plumes autour de ces yeux énormes qui sont placés de chaque côté, juste à côté du cornac. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et là on commence à faire une lecture moderne, plus scientifique, et on s'aperçoit qu'il s'agit d'un bec de perroquet stylisé. Énorme, c'est vrai. Avec les deux yeux énormes, et ces plumes sont des plumes de perroquet, non pas des plumes d'éléphant. Alors le mythe est rompu aujourd'hui, mais pendant toute cette fin du 19e siècle, on était persuadé qu'il y avait des éléphants à plumes à l'époque des Mayas. Mais c'est vrai que sur les monuments Mayas, ou sur les monuments des autres précolombiens jusqu'aux Aztèques, on avait aussi le serpent à plumes, le fameux serpent à plumes sacré. C'est-à-dire qu'on faisait un serpent et puis par-dessus on lui collait des plumes. Donc ça ne dérangeait pas qu'on fasse éventuellement des éléphants, même s'il n'y a jamais eu d'éléphants à cette époque en Amérique. Alors, ça, c'était notre façon d'examiner et puis de supprimer un peu l'idée de la trompe. On l'a transformée en hara stylisé. Mais avec toutes ces imperfections, parce que nous étions tout à l'heure avec Waldeck, dans son voyage pittoresque et archéologique dans la province du Yucatan, c'est pas n'importe quoi comme livre, hein, c'est quelque chose qu'il va éditer de manière sérieuse à Paris en 1838, et ça va lui rapporter une médaille, une pension du gouvernement français qui va lui permettre de très bien vivre jusqu'à la fin de ses jours. Attention, Waldeck est un grand rigolo, vous vous rappelez qu'il avait sa petite bonne, là, sa petite maîtresse métisse, sur chacune de ses gravures. Eh bien, lui va se marier en France à 94 ans, avec une petite jeune femme de 17 ans. Ça, c'est tout à fait Waldeck. Et c'est vrai qu'il va encore avoir un fils avec cette femme. Et il va publier son deuxième ouvrage, je crois qu'il devait avoir 99 ans ou peut-être même 100 ans. Et il va mourir finalement. La mort est superbe. Une mort à la Waldeck, c'est extraordinaire. Imaginez-vous, messieurs surtout, mourir en train de vous retourner sur le boulevard Haussmann sur une belle fille. C'est exactement ce qu'a fait Waldeck à l'âge de 100 ans. Oui, il est mort comme ça à Paris, sur les boulevards, en regardant une belle femme passer. Ça, c'est tout à fait l'aventurier qu'on imagine au 19e siècle. On est en plein romantisme, hein, c'est vrai. Alors, j'ai parlé aussi de quelqu'un d'autre à propos de Waldeck. J'ai parlé de son bienfaiteur. Vous vous rappelez de Lord Kingsborough? Cet Anglais qui avait dépensé toute sa fortune, en définitive, pour
pour retrouver ses fameuses théories, il avait dépensé à l'époque, si j'ai bonne mémoire, 40 000 livres sterling. Il va s'endetter à vie, c'est-à-dire qu'il voulait publier absolument, là je crois que, je me rappelle de la date parce que c'est juste un siècle avant ma naissance, c'est 1848. Il va publier les Antiquités sur Mexico, ou Antiquités de Mexico. C'est un ouvrage absolument monumental. Il y avait 9 volumes avec les gravures dont on parlait tout à l'heure. Et ça va coûter tellement cher en reproduction et en pictographie, avec tous les objets d'art aztèques, mayas, enfin tout ce qu'on avait pu trouver pour sa théorie, qui devait naturellement déboucher sur la finalité de prouver simplement que tous les Indiens étaient des Juifs. Hein, c'est-à-dire l'idée de ces fameuses tribus perdues d'Israël. Alors Kingsborough, il a un peu échoué au point de vue économique. Il va mourir en prison d'ailleurs parce qu'il n'arrivera jamais à payer ses dettes. Et c'est à la suite de cette prison qu'il va en fait terminer sa vie. Alors, je crois que c'est déjà une aventure qui est intéressante, mais bizarrement, c'est aussi à cause de ces deux personnages qu'on va pouvoir découvrir en fait le premier véritable scientifique qui va s'intéresser aux Mayas. C'est à cause de ces livres complètement farfelus que quelqu'un va arriver chez les Mayas et observer les Mayas tels qu'ils doivent l'être. On fera peut-être encore une petite digression avant, mais passons peut-être un peu de musique typique de la région. Alors, avant de parler de ce premier scientifique, enfin de ces premiers scientifiques, parce qu'il y a eu Stephens, mais il y a eu Carswood aussi, j'aimerais peut-être vous parler de quelqu'un qui est né à peu près à la même époque que... C'est quelqu'un de très étrange. Il est né dans l'État de New York. Attention, je n'ai pas dit la ville de New York. Dans l'État de New York. Et c'est quelqu'un qui va fonder une secte tout à fait nouvelle en Amérique et qui est partie de la même théorie que celle de tout à l'heure. C'est-à-dire la théorie des premières tribus d'Israël qui se seraient perdues, dont une des tribus qui serait arrivée naturellement aux Amériques. Et c'est quelqu'un qui avait dû lire incontestablement. Nous sommes en... grosso modo en 1820. Hein. Donc il avait déjà dû lire les premiers ouvrages de Waldeck. Attention, je n'ai pas parlé de Lord Kingsborough. Il y a des premières choses qui avaient été faites par Waldeck. Nous situait déjà cette idée des tribus perdues d'Israël et surtout ces personnages étranges sur des stèles, sur des gravures, etc. Alors, ce personnage, qui lui est encore plus étrange, je n'oserais pas dire farfelu, ce serait méchant, mais a eu une apparition très curieuse sur une colline qui s'appelle Kumura. Kumura, c'est une colline qui est tout près de la ville de Manchester, et nous sommes toujours bien sûr dans l'État de New York, et c'est là que ce Joseph Smith va recevoir des plaques en or, qui vont lui permettre de connaître ce qu'il a appelé le livre de Moroni, ce prophète qui serait mort en 421 de notre ère, et il va donc lui offrir ces plaques gravées qui vont lui permettre de traduire, enfin que Moroni va même lui traduire, afin de connaître l'histoire de cette tribu juive qui serait partie d'Israël, qui aurait atteint la mer, vous imaginez le voyage, hein, vous traversez la Méditerranée, vous passez les colonnes d'Hercule, Gibraltar, ensuite vous traversez tout l'océan, et vous venez peupler la terre promise d'Amérique. C'est aussi une façon extraordinaire de créer un mythe pour expliquer, je dirais, aujourd'hui, des racines aryennes, des racines occidentales, si vous voulez, justifiant l'Amérique et donc la conquête de l'Amérique, voire les États-Unis. Enfin, vous faites toute l'histoire que vous voulez sur le plan politique ou religieux, ça je m'en détache. Mais ce qui est important, c'est que si Néphi a été pour eux le premier des prophètes, Moroni sera le dernier de ces mêmes prophètes. Il y en a un qui serait né en 600 avant Jésus-Christ, le deuxième, je vous l'ai dit, est mort en 421 de notre ère, je parle de Moroni, et il va réapparaître, ça vous l'avez compris aussi, en 1823, devant notre Joseph Smith. Et c'est 7 ans plus tard, là il faut situer les choses dans le temps, c'est en 1830 que Smith va publier son ouvrage qui s'appelle Le Livre de Mormon, récit écrit sur plaque de la main de Mormon d'après les plaques de Néphi. Donc c'est la fondation de cette secte, ce livre qui raconte non seulement l'histoire des Juifs d'Amérique, mais surtout qui permet de fonder l'Église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour. Et c'est une histoire étrange, puisque Smith va même prétendre que Jésus-Christ est apparu en Amérique peu après sa mort, et que Jésus-Christ va ainsi permettre de rentrer dans l'histoire
précolombienne ou de se confondre avec l'histoire précolombienne et surtout avec ce grand dieu qu'on connaît tous, on en a toujours entendu parler à propos de l'Amérique, ce grand dieu blanc qui aurait bel et bien existé, c'est-à-dire celui qu'on connaît dans les mythologies précolombiennes sous le nom de Quetzalcoatl. Je n'ai pas cité ce nom aujourd'hui, mais vous le traduisez, Quetzal c'est l'oiseau, Coatl c'est le serpent, c'est bien sûr ce fameux serpent à plumes précieuses qu'on connaît mieux par les titres de films ou certains bouquins. Et puis il y a Viracocha, ça je crois qu'on a toujours un peu ce mot en tête à quelque part. Viracocha c'est le même dieu mais du côté péruvien. Il y a Contiki, ça on connaît aussi l'histoire du Contiki, on connaît toutes ces légendes à partir de Thorheyerdahl et la découverte de l'Amérique par d'autres peuples. Contiki c'est la Polynésie bien sûr. Donc l'apparition d'un dieu blanc qui serait barbu, qui aurait des yeux bleus, avec une robe blanche, enfin là je pousse un peu, ben, vous arrivez à l'histoire des Mormons, c'est-à-dire vous arrivez à cette apparition de Jésus-Christ au début de notre ère, qui est arrivé là simplement pour donner son enseignement, pour offrir son enseignement, et qui va rester quelque temps en Amérique afin d'offrir cette connaissance aux précolombiens. Donc l'histoire de Quetzalcoatl au Mexique, de Votan dans l'état des Chiapas, qui est toujours au Mexique, c'est vrai, de Gucumatz, là c'est une autre langue qui veut dire Quetzalcoatl aussi, attention ce sont des termes difficiles, mais c'est toujours la même divinité, hein. Ça c'est pour le Guatemala, Viracocha, ça nous l'avons dit pour le Pérou, il y a Soumé par exemple pour le Brésil, il y a Boxica pour la Colombie, j'ai volontairement voulu marquer toute la carte des Amériques parce que pour un mormon, eh bien c'est simplement Jésus-Christ qui après sa mort, aurait pu ainsi apparaître plusieurs fois pour l'ensemble des peuples américains. Donc l'histoire des Mormons, elle se passe véritablement à l'époque précolombienne. C'est intéressant. Allez, procurez-vous un livre des Mormons et vous verrez que les illustrations de cet ouvrage touchent encore le monde précolombien. Il y a juste une ou deux choses assez curieuses. Je parlerai par exemple de la métallurgie, ce qui est un peu incongru. Il n'y a pas d'outils de métal chez les Mexicains de l'époque. On le voit malgré tout. En fait, c'est un espèce de mélange. On voit des personnages un peu juifs, un peu babyloniens, dans des ruines qui ressemblent un peu à Tikal ou éventuellement à Machu Picchu. Ça, c'est dans un ouvrage que vous achetez en 1990. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez l'acheter maintenant, vous pouvez l'obtenir maintenant, et vous avez ces images à l'intérieur qui vous prouvent comment l'Amérique était peuplée. Donc, en 1830, en plein romantisme, on a maintenant une nouvelle religion aux États-Unis qui parle, en fait, des premiers Américains. C'était une petite digression, mais je crois qu'elle était importante pour situer l'importance, justement, la jordonde de la première découverte scientifique. Comment, en ayant eu des choses aussi romantiques dans l'espace et dans le temps de cette époque, peuvent intervenir un Stephen et un Carswood?
Volaron las amarillas, calandrias en los nopales, ya no cantarán alegres los pájaros cadernales, a la tiranana, a la tiranana no, ya no cantarán alegres los pájaros cadernales, árboles de la alameda, porque no han reverdecido, por eso calandrias canten, con las zapachurra el nido, a la tiranana, a la tiranana no. Calandres canten, con la zapachurra el nido. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. A la tira na na na, a la tira na na no. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. En la medianía del mar suspiraba una ballena y en el suspiro decía el que la seca la llena. A la tira na na na, a la tira na na no. En el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací pico pico. Soy como el tarantantán, donde quiera meto el pico. A la tira na na na, a la tira na na no. Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna, a la tira na na na, a la tira na na no. Todos dan su vida, pero como hasta ninguna. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21.
Casu de Stephens. Je crois qu'on en parlera quand même un peu la prochaine fois, parce que ce sont deux personnages tellement révélateurs, tellement incroyables par rapport à l'histoire des Mayas, que c'est presque déjà un sujet. Casswood et Stephens, ce sont deux hommes qui vont dessiner, qui vont écrire sur les différentes cités mayas, qui vont se placer devant ces stèles, qui vont essayer de passer des heures avec les moustiques. Vous verrez les horreurs la prochaine fois, la vie difficile à travers la jungle, les journées de combat contre la maladie, pour que ces deux personnages arrivent finalement à créer peut-être les plus beaux dessins et surtout le plus beau livre de voyage que je n'ai jamais lu. Et là, je vous assure que si ça vous arrive de pénétrer dans l'histoire des incidents et des aventures de ces deux personnages, vous verrez que l'histoire d'Amérique, vue sous cet angle-là, en plein 19e siècle, elle a déjà quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire que tout à coup, ces deux personnages, un dessinateur et un écrivain, décidant ensemble, après avoir fait tout le Moyen-Orient, de se plonger à Copan, d'aller à Palenque, d'aller à Chichen Itza, d'aller à Uxmal, de faire le tour de toutes les ruines connues ou inconnues de l'époque, d'acheter pour $50 une hacienda avec toutes les ruines qui sont dessus. Ça, c'est Copan, le plus beau des sites du Sud. Ben, ils l'ont carrément acheté $50. Ils vont y vivre, ils vont y passer des mois avec des gants pour pouvoir dessiner, parce que les Picus à l'époque, que les précolombiens sont vraiment des hommes qui ont vécu comme vous et moi à une autre époque et qu'ils ont construit des choses incroyables. Et en conclusion, pour aujourd'hui, parce qu'on redéveloppera ce sujet la prochaine fois, je vous l'ai dit, je crois que ce qui est important, c'est que Stephens, qui sera le seul qui pourra écrire et continuer le travail, et vous verrez pourquoi, avait compris que toutes ces cités mayas, elles appartenaient en fait à une seule civilisation. C'est déjà important. Après tous les farfelus de l'époque, qu'il n'y a pas eu d'Égyptiens, qu'il n'y a pas eu de visiteurs exotiques, qu'il n'y a pas eu de tribus perdues, que ces gens-là, ben, c'était les mêmes que vous voyez juste à côté aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont ces petits paysans qui sont là, qui travaillent la terre, ce sont leurs ancêtres qui ont construit les choses merveilleuses que l'on découvre aujourd'hui. Et c'est le temps qui va donner raison à Stephens, parce que au cours d'un voyage au Yucatan, en explorant les plus grandes ruines, là je parlais d'Uxmal, de Chichen Itza, ils vont voir une douzaine de sites différents et ils vont découvrir tout le système des routes mayas. Ils vont voir que tout cela tient effectivement et ils vont finir leur vie de façon tout à fait extraordinaire parce qu'ils ont réussi en quelques années à faire rentrer toute l'Amérique dans l'histoire du monde, d'arrêter cette idée de primitif, etc. Et c'est vrai qu'après eux, il y aura d'autres voyageurs. Il y a quelqu'un qui est très connu en Suisse. Enfin, j'y repense parce que je les ai vus l'autre jour. Si vous allez à Bâle, vous allez pénétrer dans le musée d'ethnographie de Bâle. Vous verrez peut-être les plus belles choses de Tikal. Vous verrez les éléphants à plumes dont on parlait aujourd'hui. Ce sont des panneaux qui font à peu près 2 mètres sur 4 en bois. En bois, sculptés dans les années 700 de notre ère. Donc conservés par miracle dans la jungle, et ils ont été trouvés il y a à peine plus d'un siècle, en 1877, par un Balois qui s'appelait Bernoulli. Et Bernoulli, c'est un botaniste en fait, un botaniste suisse qui s'est perdu dans la jungle du Guatemala et qui va étudier Tikal. Et c'est lui qui va démonter ce qu'on appelle les linteaux des temples de Tikal. Vous vous rappelez ces pyramides qui nous faisaient monter pratiquement sur le 20e étage de nos immeubles? Eh bien, c'est là. En pénétrant dans cet édifice de la numéro 4, de la numéro 1, comme on les dénombre aujourd'hui, qu'il va s'apercevoir que tout le sommet de la porte, tout le linteau des grandes portes des temples, était sculpté dans le bois et avait été miraculeusement protégé dans cette humidité, dans cette jungle. Il va les dégrafer, il va les arracher, il va les découper et il les emportera à Bâle. En fait, je crois qu'ils arriveront, si ma mémoire est bonne, ils sont arrivés tout seuls à Bâle. Bernoulli n'est jamais revenu à Bâle, il en est mort. Et ils sont aujourd'hui encore en Suisse. Ce sont des témoignages peut-être les plus beaux, parce que quand on les observe, tout à coup, on voit, si on est très observateur dans ce baroque de la sculpture, on voit la tête d'un personnage. Mais autour du personnage qui est en pied comme cela, vous avez des milliers de plumes, c'est-à-dire vous avez tout l'élément baroque du décor autour du personnage principal. Ben, vous voyez que, mine de rien, même à quelques mètres, à quelques kilomètres de chez nous, on peut même découvrir des éléphants à plumes. La prochaine fois, je vous emmènerai encore chez ces Mayas, parce que c'est le début de notre route de l'Eldorado, c'est peut-être une des plus grandes civilisations qu'ont laissé les Américains. On fera un peu le tour de toute cette Eldorado en quelques semaines. Mais j'aimerais repartir sur les traces de Casswood et de Stephens, mais j'aimerais aussi que vous découvriez peut-être la chose la plus incroyable de l'archéologie du 19e siècle, c'est l'histoire de Thomson. Thomson est celui qui avait rêvé en lisant une seule phrase d'un prêtre espagnol, a rêvé de retrouver le trésor de Chichen Itza et de plonger dans le puits des sacrifices pour retrouver les grandes offrandes mayas. Il va y arriver. Enfin, nous allons y arriver la semaine prochaine.